Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous vous rappelons que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc une émission qui donne la parole aux victimes au premier abord. Rappelez-vous, chers auditeurs, que nous sommes en semaine nationale de prévention contre le suicide. Donc cette période de sensibilisation est cédulée du 3 au 9 février. Alors bien sûr, il y a quelques articles de journaux et des sorties médiatiques ciblant cette problématique. On rappelle à la population que le problème persiste et que des centaines et des centaines chaque année mettent fin à leur vie sans avis préalable. Alors vous comprenez plus facilement que dans une telle approche, nous allons tout d'abord consulter le rapport de l'Institut national de santé publique du Québec, rapport mis à jour sur la mortalité par suicide au Québec. Et si vous allez fouiller ce rapport qui contient une vingtaine de pages, vous allez découvrir, que le Québec marque un léger recul par rapport à la fin des années 2000. Il y avait environ 1620 suicides annuellement. Donc la grande, et je dis bien la grande majorité de ces personnes qui se donnent la mort sont des hommes. Le rapport nous apprend aussi que l'âge de ces victimes s'accentue autour de 35 à 49 ans. Et le plus drôle dans ce rapport, c'est qu'il nous explique, entre autres, minutieusement les moyens utilisés ou pratiqués, si vous voulez, pour se suicider. Alors, ce fameux rapport souligne les moyens utilisés ou pratiqués par les victimes pour atteindre leur objectif. Il note parmi d'autres moyens, bien sûr, aussi la pendaison ou la strangulation. Et le mystère, c'est que ces moyens les plus fréquents sont utilisés par des hommes ou bien des femmes aussi. Alors il faut faire attention, il ne s'agit nullement de courage ou autre, mais quand l'homme, avec une grande majuscule, touche le fond, le moyen et l'intensité de la douleur ne devient plus un facteur de réflexion, mais plutôt une porte, soi-disant, de secours afin de se détourner de la compréhension. Et je suis allé moi-même fouiller dans ce rapport à la recherche des causes qui se cachent derrière ce taux de suicide alarmant dans une province décrite comme le paradis sur Terre, alors que j'ai toujours maintenu l'idée que le Québec, avec sa politique et son système, c'est l'enfer sur Terre, et que les gens vivent comme des esclaves, mais faute d'un système de vie, en accélération bouleversante, personne n'a le temps, bien sûr, de se rendre compte de la gravité du réel, ni vers quel mur il se dirigera dans un avenir, je dirais, proche. Alors, j'avais fouillé en quête de trouver les causes de ces suicides. Résultat, le rapport en question cite tous les niaiseries possibles et impossibles, mais il ne dit rien concernant les causes de suicide. Autrement dit, les citoyens se suicident par des centaines chaque année sans que personne, ne peut savoir exactement les causes de ces suicides. Par contre, je vous rassure, chers auditeurs, chères auditrices, qu'ils sont nombreux et que derrière chaque cas de ces cas-là, ces personnes-là qui se suicident, il y a une tragédie et rare, je dis bien, et rare où l'État n'est pas tenu responsable. Maintenant, j'ai compris aussi que nous, gouvernement, préférons que ces gens se suicident que d'être malade, et ceci va coûter trop, parce que ceci va coûter trop cher au système de santé et aux services sociaux ensemble qui sont en difficulté permanente. J'ai compris aussi que nos gouvernements préfèrent que ces personnes-là qui tombent dans la confusion ou l'incompréhension et qui n'arrivent plus à suivre le cours de la vie, l'option du suicide est gagnante pour l'État, pour ne pas se ramasser avec un nombre très élevé dans des centres de détention. Ça aussi, elle coûtera davantage trop cher au trésor de l'État. Alors, même si on montre superficiellement une tendance de venir en aide à ces victimes, le terrain nous montre malheureusement une autre réalité. Alors maintenant, et comme les raisons des suicides de ces victimes-là sont nombreuses et inaccessibles en absence de preuves à l'appui, j'ai voulu aujourd'hui vous en parler d'un cas qui est unique, qui conduit à son tour à ce couloir de la mort, une cruauté humaine au modèle québécois qui amène souvent à des fins tragiques la cruauté de la DPJ envers les enfants québécois. Et peut-être avant de plonger dans cette blessure encore saignante à nos jours, abondamment, bien sûr. Je souhaite attirer votre attention, chères auditrices, chers auditeurs, à cet article publié par le Journal de la Presse de cette semaine intitulé « Des enfances volées par des milliers ». Donc c'est un très bon article, d'ailleurs je vous réfère à cet article-là, qui illustre bien que le problème n'est pas d'aujourd'hui, mais bien avant, c'est autour des autochtones qui témoignent d'une partie de leur histoire. Évidemment, une de leurs victimes qui témoigne devant la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, qui siège à Val-d'Or ces jours-là, cette victime tente d'informer la Commission de faits réels qui secondent l'histoire canadienne et la tâche pour longtemps. Alors, elle nous informe ce qui suit en se rappelant de son enfance. Elle disait dans cet article-là, ce n'est pas les coups ni les agressions, ce sont plutôt ces terribles journées du mois d'août quand les avions atterrissaient dans ce village cri pour venir arracher tous les enfants à leurs parents pour les assimiler. Fin de témoignage qui nous concerne. Alors, ce n'est pas une histoire fictive, mais c'est une de ces vérités que tout le monde devra connaître. Il y a présentement 80 000 de ces mères victimes qui seraient encore vivantes et qui ont vu leur enfant arraché de leurs bras sans aucune explication. Alors, ce matin, je tourne la médaille et j'ai en face de moi une personne qui a vu sa conjointe se suicider parce que la DPJ est venue à son tour, ici au Québec, lui arracher ses propres enfants. Cette personne, elle a accepté de venir témoigner sur ce plateau de l'atrocité de la direction de la protection de la jeunesse québécoise. Comme j'ai aussi sur le plateau, en face de moi, une autre personne qui va témoigner aussi à son tour. Elle va témoigner la profondeur de ce gouffre ciel ouvert sur le Québec, qui n'est pas autre aussi que la direction de la protection de la jeunesse. Protection ou violation, c'est qu'on va tenter, ce qu'on va justement tenter de comprendre avec les minutes qui viennent, qui suit dans cette émission-là. Maintenant, la question n'est plus qui souffre, enfant, parent, lors d'une rupture barbare de cette force, mais plutôt les conséquences de cette manœuvre à long et court terme. Une chose est certaine, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que toutes les victimes ne semblent pas résilier de tourner la page. Alors maintenant, chers auditeurs, vous avez le droit de connaître le sort de ces enfants et de ces parents qui sont ou qui se sont séparés par la faute de la DPJ. Prévenir, c'est mieux que guérir, car la guérison ici est quasiment nulle. Au micro avec vous ce matin, chers auditeurs, chères auditrices, Hadj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. Mes invités ce matin sont M. Jean Robert, un homme qui travaille depuis 15 ans à dénoncer les irrégularités de la direction de la protection de la jeunesse. J'ai l'honneur aussi d'accueillir une autre fois Mme Chantal Minot, psychoéducatrice. Alors, une femme exceptionnelle, je dirais même rare, l'amour et le bien des enfants l'a forcée de mener des combats sans relâche. Dire la vérité ici au Québec n'est pas une chose facile. Défendre le bien des enfants est encore plus difficile. Cette femme unique, déterminée de venir en aide aux enfants québécois, demande aujourd'hui d'être écoutée. Le problème semble grave et peu de gens se rendent compte. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, restez à l'écoute. Après notre thème musical, on va revenir avec nos témoins d'aujourd'hui.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à
je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Après la roue de la fortune, la main de ma sœur, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baffe obscène est à la lune.
Alors voilà, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, j'ai en face de moi, bien sûr, Monsieur Jean Robert. Bonjour Monsieur Jean Robert, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. J'aimerais bien vous poser, j'ai en face de moi aussi Madame Chantal Minou, qui est juste en face de moi. Bonjour Madame Chantal Minou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.
C'est plaisir.
Alors la première question que j'aimerais bien poser à Monsieur Jean Robert, quel est le rapport que vous avez avec la DPJ? Je sais que grosso modo comme ça que vous avez quand même, vous traînez derrière vous une quinzaine d'années de travail bénévole pour justement venir en aide aux enfants et la sensibilisation de la population.
Exactement. Moi, je fais une légère présentation du début.
Oui.
J'ai vécu le suicide de mon ex-conjointe suite à l'enlèvement par la DPJ et à leur coupure de contact sauvage de son dernier bébé d'un autre père. Étant demeuré un grand ami pour elle, lorsque la DPJ m'a appelé pour m'informer de son suicide. Alors, l'intervenante de la DPJ, qui s'est vantée d'être à côté de sa supérieure, pour monter l'appui qu'elle avait dans ses comportements inacceptables, se sont fait un plaisir de m'exprimer que cela était un bon débarras pour eux. Vous comprenez que c'est assez traumatisant comme annonce.
Réponse, oui, hein?
Par la suite, étant seul, je devais trouver une garde temporaire de 24 heures sur 24 pour une semaine continue pour mes deux enfants.
Le tout, c'était trois enfants, vous avez?
Oui.
Oui, OK.
Alors, j'avais en fait deux filles avec elle,
oui.
Avec cette mère-là.
Oui. Mais tout ce qu'on veut savoir, nous, M. Robert, c'est que votre conjointe, il y a une quinzaine d'années, malheureusement, est tombée malade. OK. Et une fois qu'elle est tombée malade, la DPJ sont rentrés dans le décor. Et puis, à cause que votre conjointe était malade, la DPJ ont jugé mieux de lui prendre l'enfant. Et ce que j'ai bien compris, c'est à cause qu'ils ont arraché l'enfant, c'est là où elle a dégradé sa santé mentale, est dégradée de plus en plus, et elle est arrivée à la fin, malheureusement, au suicide. Est-ce que c'est exact?
C'est suite à un dernier enfant d'un autre père.
Oui. Non, mais d'un autre père ou pas d'un autre père, je sais qu'on ne rentre pas dans l'intimité ou dans le problème familial, mais tout ce qu'on sait, que c'est son fils, hein, elle a mis au monde un enfant, et parce qu'elle était malade, elle était vraiment très malade, alors il n'y avait pas un soutien médical ou un suivi, mais qu'est-ce qu'ils ont jugé le mieux, c'est de prendre l'enfant, c'est ça exactement, c'est ça. Et l'enfant, il avait quel âge quand la DPJ ils l'ont pris?
Je crois qu'ils avaient aux environs de quelques jours.
Quelques jours, ok, voilà.
Parce qu'on n'était pas en contact permanent.
Vous connaissez votre conjointe, le souvenir que vous avez aujourd'hui, comment elle a vécu cette séparation?
Vous parlez d'avec moi?
Non, séparation de l'enfant. Quand les DPJ sont rentrés, puis ils ont pris son fils.
Ce que j'ai su par la suite, oui, c'est qu'elle avait été en audition au tribunal de la jeunesse.
Oui.
Et quand on lui a appris qu'elle ne reverrait plus son bébé, disons que son état s'est énormément détérioré, oui, au point où les gens qui l'avaient côtoyé, oui, avant son suicide, la décrivaient comme un robot.
Voilà.
Ses amis lui parlaient, mais
elle
n'était pas là.
Alors, j'ai compris comme quoi, à votre avis, à vous, si, par exemple, il y avait un encadrement enfant-mère, est-ce que on a pu éviter la mort de cette femme-là?
Effectivement, ouais. Si on revenait aux anciens CLSC qui aidaient les parents réellement,
ouais,
avant que la DPJ s'investisse dans les CLSC pour court-circuiter l'œuvre des CLSC.
Ouais.
Excusez-moi, est-ce que vous me permettez je rectifie un peu, parce que ça n'existait pas dans les CLSC. On les appelait les points de service locaux et ça relevait.
Oui. C'est Mme Chantal Minot, les psycho-éducatrices.
Oui, d'ailleurs, j'ai fait mes stages là et je croyais ils ont tout défait ces points-là. C'est les points de service locaux qu'ils appelaient dans les centres jeunesse.
Oui.
C'était des services qui existaient pour justement outiller les parents afin on appelait ça des dossiers semi-ouverts au centre jeunesse.
Oui.
Afin de ne pas les ouvrir, on venait en aide directement dans le milieu familial.
Okay.
Mais c'était pas les CLSC, parce que quand ils ont coupé, c'est en 95, et moi, en 97 plutôt, puis quand ils ont coupé les services, moi je voulais appliquer, ils ont tout fermé partout, les CLSC n'engageaient pas de psychoéducateurs. Alors ça n'a jamais existé vraiment dans les CLSC. Il y a un blanc en ce moment dans ces services, il y a un trou.
Un trou qui...
Il se crée tranquillement dans certains CLSC, mais il ne l'a pas partout. C'est un service qui relevait des centres jeunesse.
Moi je voulais, Mme Chantal Minot, juste si vous me permettez, c'est que le problème, je voulais expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que ce problème il est depuis très très longtemps. Et ce qui arrive aujourd'hui, vous allez voir, votre témoignage aujourd'hui va aussi prouver que le problème persiste même aujourd'hui, et on dit qu'il n'y a aucun mécanisme qui arrive sur le coup pour faire changer le système, mentalité. C'est un système qui est vraiment défaut.
C'est pire que ça.
Ouais.
On a un système qui rempire la situation et qui amplifie la loi du silence, la loi de l'omerta.
C'est
parce qu'on encourage la loi du silence, et je vous le dis, c'est ceux qui dénoncent, c'est incroyable ce qu'on vit. Alors, j'ai découvert la DPJ l'année passée. Je ne pensais pas que c'était aussi grave.
Ouais, mais avant de venir à votre témoignage, moi, il me semble que cette société-là, notre société, elle recule en avançant, en reculant. Alors, si je reviens, par exemple, avec le témoignage d'un autre monsieur qui est en face de moi. Bonjour, monsieur Henri. J'aimerais bien juste savoir, vous appartenez malheureusement de cette génération qu'on appelle les orphelins de Duplessis. Alors, les orphelins de Duplessis, vous étiez déclaré bibile mentale à votre enfance, c'est
oui.
ça?
Oui, c'est oui. ça.
Et ce traumatisme, il continue jusqu'à aujourd'hui. Quel âge avez-vous aujourd'hui, monsieur Varlamé?
Aujourd'hui, j'ai 75 ans.
75 ans. Alors, ce qui est terrible aussi dans votre témoignage que j'ai entendu avant d'être sur la ligne, d'être sur les ondes, c'est que vous avez des enfants, monsieur Henri,
oui.
vous avez des enfants, et parmi vos enfants, vous avez une fille, une très belle fille, qui a eu un enfant, et elle a eu un conflit avec son conjoint. Alors, ses conjoints, ils lui reprochent comme quoi son père, son grand-père, il est bibile mental, c'est ça?
Oui.
Alors maintenant, votre fille, elle n'a pas le droit d'avoir sa fille aussi, parce qu'on lui reproche, excuse-moi, comme quoi son grand-père, il est bibile mental, alors automatiquement, elle aussi, elle est bibile mental. Alors que c'est le gouvernement, c'est l'État qui vous a déclaré bibile mental.
Faussement bibile mental.
Faussement bibile mental.
Oui.
Et l'erreur, elle n'a jamais été rectifiée.
Non, jamais été rectifié. Puis en plus de ça, qu'est-ce qui m'a fait de plus de peine? Que le père a refusé le nom de la mère par rapport son père, le grand-père, était débile mental. Il avait été déclaré débile mental dans les années, on pourrait dire, 40. Alors, puis, qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça? Moi, aujourd'hui, c'est beaucoup de peine. Vois-tu qu'est-ce ça se produit entre mes enfants et mes petits-enfants? J'aurais jamais eu d'enfants. Jamais.
Mais pourtant, c'est pas vous, monsieur Henri,
oui,
c'est pas vous.
Oui, mais c'est les enfants qui pâtissent aujourd'hui de ça. Oui.
À cause de l'étiquetage.
Hein? Mais il est important de savoir qu'actuellement, la DPJ continue le même système.
C'est ça.
Les enfants qui sortent de la DPJ là, sont diagnostiqués malades mentaux
avec des difficultés.
Avec de grosses difficultés. Alors, tous ces enfants-là sortent sous forte médication psychiatrique.
Oui.
Et c'est avec grand courage que ces jeunes-là vont, à un moment donné, tenter de décrocher, mais on va les avoir fortement déconseillés. Puis on sait que quelqu'un qui veut décrocher des médicaments psychiatriques, là, c'est extrêmement difficile.
Oui, monsieur Robert, Jean-Robert, on sait que c'est vrai que ce cheminement-là est très, très dur et difficile. Je l'avais même signalé à la préface de cette émission-là, comme quoi c'est un couloir de la mort. On va vers vraiment le suicide des fois, parce que c'est très difficile, c'est rare. Alors vous, des gens comme vous, moi je vous appelle des vrais militants de la cause, comment vous avez pu, à partir de voir votre conjointe se suicider parce qu'ils l'ont arraché son enfant ou ses enfants, alors comment vous avez pu vivre ça et qu'est-ce qui vous a amené justement à tenir tout un combat, un système au complet?
Si vous me permettez, monsieur Zitoni, je rajouterai aussi, suite au suicide de son ex-conjointe et aussi qu'on lui a enlevé ses deux filles qu'il ne voit plus depuis 15 ans et qu'il n'a pas le droit de savoir leur nom, il ne sait toujours pas où ils sont. Hein, c'est suite à ça.
Il a deux
aujourd'hui,
filles?
Aujourd'hui, ils sont adultes et on le tient ignorant de ce qu'elles sont devenues, de leur nom. Il n'a plus le droit de les voir depuis 15 ans. Depuis qu'il a demandé un répit temporaire après le suicide de son ex-conjointe, la DPJ lui a enlevé ses deux filles aussi. Non seulement son ex-conjointe, ses deux filles. Écoutez, ce miracle qu'on l'ait aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'il a su recentrer sa tristesse et sa souffrance dans le site assez du DPJ qui a outillé les gens.
Mais Mme Minot, ses enfants, ils ont 15 ans aujourd'hui, 16 ans, j'imagine.
Ils ont 20 ans, vingtaine maintenant.
Ils ont 20 ans. 20 ans, et on empêche un père qui est devant nous, qui est, moi je trouve, le plus sage qu'il peut avoir, l'empêcher de voir, d'avoir contact avec ses propres enfants.
Écoutez, la DPJ a monté un dossier criminel contre monsieur. Oui. Et puis c'est pas le premier. Là. Il monte des dossiers contre les gens, que ce soit criminel ou psychiatrique, c'est incroyable.
Alors monsieur, cette bataille là, depuis 15 ans qui dure jusqu'à présent, comment pouvez-vous en quelques mots nous le décrire ça?
Eh bien, voyez-vous, moi, disons que suite à deux expériences très tragiques face à ce système, j'ai voulu en savoir plus. Donc, comme je devais attendre en cours jeunesse, à ce moment-là, j'ai commencé à jaser avec les parents autour de moi, parce que les gens qui se présentent à la cour, en général, n'osent pas parler à personne d'autre qu'aux personnes qu'ils connaissent très près. Là. Oui. Alors moi, à un moment donné, tu m'en dis, tu reconnais les visages. Là, on te fait comparaître sans arrêt. On dit qu'on n'a pas le temps, il faut que tu reviennes dans un mois. À un moment donné, tu vois que les visages sont un peu familiers. Alors tu t'approches, tu jases un petit peu. Comment ça vous est arrivé, vous? Alors, je commence à réaliser qu'il y a comme un...
Vous êtes pas le seul, c'est ça?
Pardon?
Que vous n'étiez pas le seul.
Je n'étais pas le seul, mais je commence à voir qu'il y a comme un pattern. Mm. Oui. Alors là, je me dis, est-ce que le pattern est uniquement dans Saint-Jean ou si il est généralisé à travers le Québec? Alors, c'est ce qui m'a amené à créer un site, à m'informer, puis là, à fouiller, puis finalement, parce que c'était pas mon métier d'origine, là, j'étais pas informaticien, donc, alors là...
Vous êtes devenu informaticien à force de... Oui, pour la cause, oui, c'est bien.
Alors là, c'est suite à ça que là, j'ai commencé à...
Alors, vous êtes rentré en contact avec plusieurs victimes, j'imagine?
Effectivement, plusieurs victimes.
Et vous avez constaté que le nombre est très élevé aussi,
et que ça
considérable, et les plaintes, ils sont de plus en plus...
Et que ça se distribue à travers le Québec et que, bizarrement, on remarque que ce sont les mêmes schèmes de fonctionnement, les mêmes schèmes d'abus de pouvoir.
Oui. Pourriez-vous les dire, M. Robert, s'il vous plaît? J'aimerais ça qu'il résume le pattern, le schème qu'il a découvert.
C'est que ces gens-là, voyez-vous, il y a deux avenues possibles pour tomber entre les mains de ces gens-là. Il y a sous un signalement anonyme, ou une demande d'aide de quelqu'un de la famille pour un jeune parent qui pense pas, lui, qui nuit au jeune parent, mais dans les faits, il se trouve à nuire au jeune parent puisque le jeune parent est automatiquement considéré comme étant déficient à partir d'une demande d'aide, ça peut être de la mère, c'est-à-dire de la grand-mère de l'enfant, qui n'a rien à reprocher à sa fille, mais qui dit peut-être qu'un petit peu de conseil lui aiderait.
Pour développer ses habiletés, bref, comme tout le monde a le droit dans sa vie.
Et
oui, ça me fait penser vraiment à ces gens-là qui appellent la police. Ils composent une 911 pour avoir cherché de l'aide,
oui.
Et ils se ramassent avec un
psychiatre.
Un psychiatre, ou bien on tire sur quelqu'un, on le tue. Vous comprenez, là, c'est ça la tragique.
Oui, hein? Oui, parce que si la mère, elle s'oppose à laisser rentrer ces gens-là chez eux,
oui.
Elle dit, moi, j'ai rien à me reprocher, je suis un bon parent. On va appeler la police, qui, elle, doit collaborer avec la DPJ, va, si nécessaire, défoncer l'entrée. On appelle une ambulance, on attache la mère à une civière et on l'envoie carrément en psychiatrie pour pouvoir récupérer les enfants.
My God,
j'ai plein de cas qui m'ont été signalés de cette façon-là. Et l'autre façon, quand on n'a rien, là, on cible ces enfants-là, mais on n'arrive pas à trouver de motif. Là, on contacte le parent en lui offrant un service auquel il a droit. On dit, écoutez, là, en fonction de votre situation, vous en avez l'eau sur les épaules. Il faut que vous compreniez que vous avez droit à des services, vous avez droit à un répit temporaire.
Comme ils ont fait avec M. Robert.
Oui, voilà.
Alors, c'est ce qui m'est arrivé il y a 15 ans, mais c'est ce qui arrive aussi encore actuellement à de nombreux parents, parce que de nombreux parents me contactent en me disant, vous ne croirez pas ce qui m'est arrivé. Et là, je leur dis, OK, vous avez été signalé ou on vous a offert un faux service. Alors,
c'est le cas.
Écoutez, j'ai une maman parce qu'elle n'avait pas d'argent pour payer son loyer. On lui a offert de l'aide et on lui a enlevé ses enfants maintenant jusqu'à 18 ans. Je l'ai ramassé vraiment sur le bord du découragement total à l'automne.
Parce qu'elle n'arrive pas à payer son loyer,
non,
madame.
Non, elle avait 20 ans.
La difficulté.
Oui,
hein?
Elle avait besoin parce qu'elle s'est séparée de son conjoint. Et elle n'avait pas d'aide sociale. Fait que le temps qu'elle l'aille, elle n'avait pas de sous. Alors, vu que c'est une enfant qui avait déjà été dans la DPJ, son réflexe, c'est d'aller vers la DPJ. Et là, c'est sûr qu'en étant de la DPJ,
Madame Chantal, si vous me permettez, Madame Minou, excusez-moi, n'importe quel petit mot dans votre historique, vous êtes fini là.
C'est fini.
Ce qui arrive. Alors, j'aimerais bien me revenir maintenant à cette intervention de la DPJ, service DPJ. J'ai entendu beaucoup d'histoires qui font vraiment froid au dos. Pourquoi le contact, la communication, elle est complètement coupée? Qu'est-ce qui amène que nous sommes devenus comme systématiquement des robots? On appelle quelqu'un qui fait un signalement, on arrive là-bas, on n'ouvre pas le débat, on n'ouvre pas une communication, on n'ouvre pas la possibilité d'entendre l'autre. Alors tout ce qu'on fait, on ramasse celui-là dans une psychiatrie, on le ramasse dans un hôpital,
on protège les erreurs.
C'est ça. Pourquoi nous sommes rendus à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai une hypothèse parce que vu que ça fait quand même depuis 1994 que j'ai vu ça à l'hôpital, j'ai vu ça ailleurs. Écoutez, c'est une loi du silence. C'est ceux qui osent dénoncer ou qui demeurent intègres. Les professionnels sont pris dans une double contrainte, soit qu'ils adhèrent à cette loi du silence, ou s'ils n'y adhèrent pas, ils se font harceler, intimider, congédier, mettez ce que vous voulez.
Mais ça j'ai compris.
Mais
ce qui me dérange le plus, c'est que quand par exemple quelqu'un, moi je prends un téléphone, je dénonce, je dis écoute,
c'est à ça que je voulais en venir, c'est que malheureusement les professionnels qui demeurent, c'est pas des méchantes personnes, c'est parce qu'à un moment donné les gens ils ont besoin de travailler, ont besoin de vivre, ils sont pris au piège. Alors les professionnels continuent de travailler, ils adhèrent à cette loi du silence, mais ils sont pris là-dedans. Oui. Alors ça, c'est mon hypothèse, parce que j'ai une formation en psychothérapie aussi.
Tout à fait.
Et je pense qu'il y en a qui n'ont pas assez de formation, puis il y en a qui confondent la distance émotive. Avoir de la distance émotive, là, c'est pas être indifférent à l'autre. Moi, j'ai vu beaucoup de chefs de service de DPJ intervenants ridiculiser des travailleurs sociaux, plusieurs professionnels, parce qu'ils avaient les larmes aux yeux. Je suis désolée, mais être sensible à l'autre, oui, on peut avoir les larmes aux yeux, mais tant qu'on reprend contrôle, on se laisse toucher par l'autre. Avoir les larmes aux yeux, c'est se laisser toucher par la souffrance de l'autre. Oui. Être indifférent, c'est être vraiment indifférent, pas être affecté du tout, mais c'est pas bon. C'est pas ça la distance émotive. Distance émotive, c'est se laisser toucher et la retourner à l'autre.
Exact.
Alors, il faut se laisser. C'est sûr qu'on
est. Nous sommes des humains, hein, nous sommes pas des robots,
Mais malheureusement, je crois que les gens, en se sentant touchés par la souffrance des autres, ils vont s'apercevoir du mal qu'ils font et là, ils vont être pris en plus dans un dilemme. Alors, il y a des mécanismes de défense qui rentrent en branle parce que c'est comme, vous le savez, Léon Lafleur qui s'est suicidé au CHSLD à Saint-Charles. Borromée. Oui. Quand ça a été dénoncé, je crois pas que c'était une mauvaise personne, mais écoutez, je pense que les gens, pour monter en grade, n'ont pas le choix de garder le silence. Mm-hmm. Puis malheureusement, dès que c'est dénoncé, c'est qui la cible? On tire sur le messager ou celui qui est là, mais c'est le système qui alimente tout ça. Oui. Les gens devraient, on devrait avoir quelque chose qui protège des professionnels, qui devraient avoir le droit de garder leur intégrité. Mais ça commence dès les stages.
Ça veut dire, si un professionnel qui va, par exemple, dénoncer un tel cas, alors...
Il ne sera pas manqué, il est mieux d'être fort psychologiquement.
Voilà, my God, ça veut dire, il n'y a même pas un appui de solidarité.
Maître René Binet, un avocat de 20 ans d'expérience qui a défendu les enfants pendant 20 ans, s'est suicidé le 7 mars 2011. J'ai appris ça à l'automne, j'étais vraiment triste. C'est le seul qui m'avait aidé en 2000 quand j'avais besoin de support et d'aide pour aider un enfant. Écoutez, c'est...
C'était un avocat?
Oui, d'ailleurs, j'aimerais ça tantôt lire un texte qui écrit le suicide de Yann en cette semaine de prévention du suicide, parce que je trouve qu'il décrit bien notre système. Et si vous voulez, je peux le lire maintenant.
J'aimerais bien, mais juste pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, donc il s'agit de maître René Binet. Donc il est décédé, vous m'avez dit, il s'est suicidé?
Oui. Écoutez,
suicidé le 7 mars 2011.
Mais j'attendais d'avoir validation de sa famille. J'ai parlé à son frère hier.
Oui.
Alors, je voulais pas en parler avant d'avoir confirmation, parce qu'on entend souvent des rumeurs, c'est pas validé. J'ai eu validation et écoutez, il a été très affecté par la mort de Yann, très affecté aussi. Et qu'est-ce que je trouve désolant, c'est d'entendre d'autres personnes dire qu'il est trop sensible. Non,
il défendait les cas des enfants.
Ah oui, beaucoup.
La DPJ.
Oui, oh oui.
Et c'est à cause de ça, il n'arrive plus. Il se suicide.
Écoutez, on lui a offert un poste de juge pour qu'il arrête de parler.
My God.
Écoutez.
Alors, j'aimerais bien juste. Donc, on parle de maître René Binet.
C'est ça, Binet.
Donc, qui est décédé, malheureusement, s'est suicidé le 7 mars 2011. Donc, c'est le seul avocat, si j'ai bien compris, qui a dénoncé beaucoup les centres de jeunesse et aussi la DPJ et les tribunaux face à la destruction
des jeunes et des enfants. Oui.
Alors, j'aimerais bien, si vous me permettez, Mme Chantal Minot, que vous lisez un petit peu l'article qui a été publié le mois de juin 2004, je pense.
Le 30 juin 2004, dans Le Devoir.
Alors, avec cette lecture-là, on va tenter de rendre hommage à Maître René Binet, qui a toujours, et je dis bien toujours, défendu la cause des enfants.
Oui, et ça l'avait très affecté.
Alors, on vous écoute.
Il y a plusieurs printemps, Yann terminait une cure de désintoxication. C'était le dernier printemps avant sa majorité. Une gueule de chanteur grunge, un dragon tatoué sur le bras et une seringue dans la veine. Yann avait trouvé un coin de paradis, son nirvana. Un lieu intemporel, un espace-temps cosmique. Une autre dimension loin de son enfer terrestre. Une transcendance artificielle. Son pusher était le pape de sa religion, sa seringue sa prière et sa dope son refuge paradisiaque. L'extase et l'euphorie se sont graduellement dégradées en une sensation de manque et de souffrance. À son insu, la drogue lui avait tatoué le diable dans les neurones. Cette structure neurologique en bête tyrannique et insatiable commandait quotidiennement sa pitance. Je connaissais Yann depuis plusieurs années. Il avait 13 ans lors de son premier passage au tribunal. Pris en charge en vertu de la loi sur les jeunes contrevenants et la loi sur la protection de la jeunesse, Yann devait passer l'essentiel de sa vie d'adolescent à errer dans les corridors du tribunal et des centres d'accueil. Déstabilisé et pris en charge par une multitude d'intervenants, il n'a jamais réussi à trouver un sens à sa vie. Il a eu son lot de discours, de sermons, trop d'éducateurs, pas assez de psychologues. À quoi peut bien servir un système judiciaire pour les jeunes lorsque les services ne suivent pas? À légitimer un beau gâchis. Juger, disséquer, analyser. Je sais qu'il en avait marre de se faire disséquer sur la place publique, trop exposé aux discours des juges, des avocats et des pseudo-experts. Humilié, on lui disait qu'il était atteint du principe du plaisir, qu'il avait besoin d'un traitement cognitivo-comportemental au centre pour qu'il se programme au principe de notre réalité et devienne un actif pour notre société. Le peu d'estime qu'il avait pour lui-même en prenait pour son rhume. Il était année après année jugé, disséqué, analysé, réduit en rapports de toutes sortes afin que de parfaits inconnus puissent l'examiner et donner leur opinion. Il se voyait contraint par ordonnance judiciaire à se motiver sous peine de sanctions supplémentaires. On lui ordonnait de se conformer, d'aller à l'école et de travailler, sinon il serait privé de liberté. L'ordonnance était sa prescription judiciaire, présumément pour son bien. C'était le prix à payer pour qu'il vive avec nous. Depuis que les adultes ont inventé la raison, un mode d'emploi de la vie, une taxe pour le droit au passage sur la terre. Ils ont fait chier pas mal de jeunes. Animés de bonnes intentions, tous ces vertueux de la vie du haut de leur pureté ont, bien malgré eux, humilié et découragé plus d'un jeune. La conception de plaisir de Yann lui provenait d'une souffrance, d'une famille ayant connu son lot de difficultés, de ses décrochages scolaires et sociaux. Il est tombé comme une pierre à travers les mailles de nos structures et de notre conception de la réalité. Boris Cyrulnik affirme que pour aider un enfant, il faut pouvoir créer avec lui un lien et de l'affectivité pour l'affecter positivement. Établir un lien chaleureux afin d'établir un contact. Ordonner et tirer sur la tige ne fait jamais de bien aux racines, surtout si elles sont fragiles. La vie n'est pas un ultimatum. Un tuteur solide, stable et chaleureux est plus efficace. Impasse. Pour les jeunes en difficulté, on a promulgué des lois qui ont donné naissance à des systèmes, à des structures. Ces dernières se sont sclérosées en perdant leur âme. L'âme est ce lien privilégié entre deux individus. Un lien stable, chaleureux et significatif. Je travaille depuis 14 ans dans ce milieu des jeunes en difficulté et je peux affirmer que ce réseau n'a pas d'âme. Structure, organigramme, rendement, management, contrôle, auto-justification du système, loi de l'omerta constituent les aberrations de ce système. Et voilà pour la charité. Notre petite entreprise de l'enfance en difficulté ne connaît pas la crise. Nous sommes des courtiers en soins humanitaires. Pour l'âme, on repassera. Ces relations entre aidants et aidés dégénèrent trop souvent en relations dominant-dominé. Yann était un enfant de son époque où le suicide demeure la principale cause de mortalité. Un de ces enfants qui n'appartiennent ni au monde public ni au monde privé. Il était d'un de ces jeunes qui cherchent un sens à leur vie, des repères et une représentation de l'avenir. Bref, c'était le printemps. Le dernier éducateur en liste m'a informé qu'il allait voir Yann sur la rue Christophe-Colomb, coin Bélanger. À l'église, il y avait une trentaine de personnes venues se recueillir devant une petite boîte contenant les cendres de Yann. Il avait décidé d'en finir en s'éjectant une dose létale dans une veine sous son dragon. « Dieu se pique, » me disait Yann, « et voilà pour son passage parmi nous. » Il n'aura pas vu les belles journées de ce printemps qui commençaient à peine. Dans les saisons de ma vie, je pense à Yann à tous les printemps. Je l'imagine marchant sur la rue La Jeunesse par une journée ensoleillée, se dirigeant vers le parc. J'aurais tant aimé qu'il s'accorde un sursis. Peut-être aurait-il découvert un livre, rencontré une personne significative ou écouté une chanson, « Wonderful World », chantée par Louis Armstrong. J'aurais pu lui dire de prendre son temps, que rien ne presse, que l'étape de la majorité avec des problèmes n'était que catastrophique. Lui dire d'oublier un moment tous les discours de ces adultes trop pressés. Je lui aurais parlé de la vie de l'écrivain William Burroughs et de son livre Junkie, du livre de Bertrand Russell, Éloge de l'oisivité, de Henri Laborie et de l'éloge de la fuite, de Kate Richard, de Charlie Parker, qu'il vaut mieux se piquer et demander de l'aide que de s'exécuter. Je lui aurais parlé de Boris Cyrulnik, de l'importance de rêver, de la mère des palmiers. J'aurais aimé qu'il prenne le temps de sa vie, qui lui appartenait après tout, même si elle était marginale.
Merci beaucoup, Madame Chantal Minot, pour la lecture du texte. Donc, je rappelle, le texte est écrit par Maître René Bénet. Il était décédé le 7 mars 2011 et s'est suicidé. Oui. Et vous voyez dans ce texte-là, Yann, qui était le jeune, qui était défendu par Maître Bénet. Alors, les deux, finalement, se sont suicidés. C'est ça, Madame?
Oui.
Alors, et donc, tout ça entre les deux, celui qui est défendu et les deux personnes qui sont malheureusement mortes, quand j'entends un tel témoignage, parce que ça c'est un témoignage aussi de quelqu'un qui n'est plus là, ça bouleverse complètement notre société. Là.
Mais écoutez, c'est ça, j'allais vous dire tantôt, qu'est-ce qui me désole, c'est d'entendre, il était trop émotif, il est trop sensible. On dit ça de moi aussi, je suis trop sensible, semblerait. C'est rendu qu'avoir de l'amour pour son prochain, c'est un problème de santé mentale. Écoutez, sincèrement, je
14
crois...
14 ans de combat, hein,
Non, 20 ans, parce que ça c'était en 2004. Il a été 20 ans avocat.
L'avocat.
Parce qu'en 2011,
Pour la cause des enfants.
Oui.
Contre et la DPJ, contre le tribunal.
Le système.
C'est contre le système.
Lui croyait au potentiel des enfants. Il trouvait qu'on avait un système. Et il avait raison. On a tendance à chercher les limites chez les gens et leur faire croire qu'ils n'ont que des limites. Puis après ça, on se plaint qu'ils ne sont pas capables de se prendre en main. Je ne sais pas, on a une drôle de façon de s'y prendre.
Ouais. Donc, le mécanisme amène finalement, malheureusement, à cette fin tragique.
Oui, mais c'est ça que j'allais vous dire pour Maître Binet. Là, écoutez, moi, je pense que comme plusieurs professionnels que je vois, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on est pris à force de se faire harceler, menacer, intimider. On dit, ben, est-ce que je vais être capable de tenir le coup? Moi, j'ai des collègues qui ont dit, Chantal, je suis pas capable. Mmh. Je suis pas capable de tenir le coup. Écoutez, ils sont tombés à burn-out. Alors, ils doivent accepter d'adhérer à cette loi du silence parce qu'ils sont pas assez forts psychologiquement. Alors, à un moment donné, c'est comme si on avait le choix entre sa propre vie, on va se faire détruire, ou on participe à détruire les autres. Je crois que Maître Binet, il a choisi ni un ni l'autre, malheureusement.
Mais il s'est laissé aller, finalement.
Mais c'est grave, oui, qu'on ait ce choix-là, oui, se faire détruire. Parce que moi, c'est ça qu'on fait avec moi. On cherche à me détruire aussi en ce moment.
Exactement, c'est ça que je voulais dire. Parce que vous prenez la relève aussi. Hein.
C'est sans le vouloir, ça s'est fait tout seul, mais je dirais...
Mais est-ce que vous avez peur, madame? Est-ce que à un moment donné, vous avez une crainte? Parce que pour moi, vous avez des enfants, j'imagine. Vous avez
non, mais écoutez, en défendant les enfants au club de soccer à Montréal-Nord, j'ai eu des menaces de mort. Fait, je ne peux pas avoir plus que ça. Là.
Oui.
Fait qu'il me manque juste qui
mais ça parce que vous cherchez du bien pour les enfants.
Oui. On n'a pas un système qui est valable. Je ne sais pas si vous avez lu, il y a un article du Conseil des patronats qui a écrit justement qu'il faudrait sensibiliser à la santé mentale. Il trouve que ça dépense beaucoup d'argent. Fait que peut-être que si on marche par l'argent, on va peut-être se faire entendre. Oui. C'est parce que ils comprennent pas à quelque part qu'à quelque part en dénigrant les gens, on n'arrive à rien avec ça, que c'est notre société québécoise qui en perd.
Oui, mais parce que moi je peux vous affirmer une chose, madame, si vous entendez les appels que je reçois au bureau du mouvement Action Chez, les appels des gens, des victimes de la DPJ, des centres de jeunesse et tout, sont énormes. Moi, je dis, écoutez, là, ce n'est... À un moment donné, j'arrivais plus à quoi répondre à ces gens-là.
Mais j'aimerais ça qu'on ait un message d'espoir aujourd'hui, dire aux gens, parce que c'est pour ça qu'il y a des suicides. Puis en cette semaine de prévention des suicides, j'aimerais dire aux gens, s'il vous plaît, lâchez pas, parce que moi, je me souviens, j'ai travaillé pour des primes anonymes, mais j'étais bénévole.
Ouais.
Et je me souviens d'une dame qui avait appelé une fonctionnaire. Écoute, elle voulait se suicider. Savez-vous pourquoi?
Ouais.
Parce qu'il y avait une collègue qui l'avait dénigrée, puis qui avait dit qu'elle puis le mur, c'est la même chose. Imaginez comment une simple parole peut blesser
un individu. Énorme. Ah, je suis d'accord.
Puis j'y avais dit, madame, vous êtes sensible. Imaginez si tous les êtres sensibles qui ont de l'amour pour son prochain se suicident, dans quel monde on va vivre? Alors, je demanderai à tous ceux qui sont sensibles, qui sont blessés par cette méchanceté, s'il vous plaît, on se regroupe. Vous avez des sites Internet, vous avez assez du DPJ, vous avez Save DPJ. Oui. Là, on se regroupe en groupe droit de l'enfant et de la famille. On se regroupe. Vous n'êtes pas seul.
La solidarité.
Oui. Comme la manifestation étudiante, c'était un début.
Oui.
C'était un début. Alors, vous n'êtes pas seul, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui cherchent à étouffer et à vous faire croire que c'est des cas isolés, que vous êtes seul. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai.
On est une majorité, même dans les employés qui gardent le silence, même s'ils adhèrent d'une certaine façon en gardant le silence, je ne justifie pas qu'ils le fassent.
Tout à fait.
Mais j'ai parfaitement conscience que je fais partie par des exceptions de ce côté-là, parce que, voyez-vous, moi, je crois en Dieu.
Oui.
Je crois en l'amour. Et je crois que c'est ça ma force.
Oui.
Parce que Dieu, c'est mon rocher. C'est ma force. Alors pour
mais
moi,
vous croyez aussi aux enfants en plus.
Oui, mais moi, on me dirait, tu détruis cet enfant-là, on tire, je dirais, tire-moi.
Je sais aussi, excusez-moi, M. Robert, je vais revenir avec vous, c'est sûr et certain, mais je sais que vous avez un cas aussi particulier qu'un enfant présentement, il est en train de mourir.
Oui, puis tout le monde.
Et toutes les institutions, tout le monde s'en fiche carrément.
Oui, même le protecteur du citoyen, parce que c'est en audience, fait que il semblerait qu'apporter assistance à une personne en danger, ça semble pas être, même si c'est dans le code criminel, ça semble pas.
Et j'imagine que vous avez suivi ce cas-là, et vous avez quand même des preuves à l'appui, comme quoi c'est la détériorisation de la...
C'est pire depuis la semaine passée quand je l'ai parlé. Stéphane Clavette, là, c'était la fête de l'enfant, et il refuse que la grand-mère y soit, il refuse que j'évalue les capacités parentales de la mère. La semaine passée, il a bousculé l'enfant au point qu'il tombe à terre. Il s'organise pour provoquer des problèmes de comportement parce que la mère avait emmené des ballons. Il fait par exprès.
Et cet enfant-là qui avait, au niveau de l'événement, il avait 4 ans, aujourd'hui il a 9 ans.
Oui.
Donc il a passé 5 ans dans
là,
le cauchemar.
Non, mais il y a des gros médicaments là, en ce moment.
Oui.
Et devant l'enfant, Stéphane Clavette, il a dit à la mère qu'il couperait les contacts. Imaginez, devant l'enfant. Mais eux autres, ils ont tout le droit de perturber les enfants.
Et la mère, elle n'a pas pu voir son fils depuis...
Non, on commence. Les contacts se sont remis depuis novembre, à partir des premières... Depuis décembre, ça a recommencé. Il avait coupé depuis février.
Et moi-même, j'ai rencontré cette mère-là. Elle est tellement... je dis vraiment bravo.
Écoutez,
à cette mère-là qui mène un combat là, au-delà de l'imaginaire. Hein.
Mais c'est pire que vous pensez. Le monde ne réalise pas. C'est que c'est pas... isoler tous les gens que je connais, compris M. Robert, tous les gens à qui on a arraché les enfants, leur temps s'est arrêté.
Ouais.
Je vais faire un documentaire parce que partout, tous ceux que j'y vois, là, ouais. ils ont tout arrêté. Le temps s'est arrêté au moment qu'on leur a enlevé leur enfant. S'il y avait 2 ans, la chambre d'enfant est encore là. Tout est encore là. Ouais. C'est un deuil qui ne peut pas se faire parce que l'enfant est toujours vivant.
Ouais.
C'est de la torture continuelle et ça se fait au Québec. Jamais j'aurais cru.
Ouais.
Et le gouvernement, Mme Marois, tout le monde est au courant, mais ouais. personne ne fait rien.
Parce que c'est le, enfin, M. Robert, j'aimerais bien revenir avec vous. Pendant 15 ans, vous êtes derrière toute cette cause-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir? Est-ce que vous pensez que... je sais que vous rencontrez plein de personnes, vous parlez plein de personnes, vous encouragez plein de personnes. Est-ce que pensez-vous que votre effort, hein, les efforts que vous êtes en train de soumettre, est-ce qu'ils arriveront à avoir un fruit à la fin?
Bien, je pense que oui, parce que quand même, j'étais quand même à l'origine de au moins de 3 gros documentaires.
Oui.
Donc,
vous avez participé à
J'ai participé. J'étais la personne ressource.
Ah, oui, oui.
Dont la grand-maman d'Amélia, c'est celle qui a créé l'organisme pour les grands-parents, là, oui. la défense des grands-parents. Là, c'est un nom très long, là, dont je me souviens pas.
Mais si vous me permettez, c'est l'Association pour le respect des enfants, des parents et des grands-parents du Québec, maintenant.
Voilà, c'est ça.
Madame Luce Bouchard.
Alors, c'est ça. Alors, comme des recherchistes de l'émission Découverte ou Enquête plutôt, ont reçu mandat de rédiger un documentaire. Alors, ils ont rencontré Mme Bouchard et par la suite, ben, comme j'étais le seul site qui oui. était qui avait une voix différente, moi et Maître Binet, parce oui. qu'on se complétait tous les deux là, oui. à l'époque où on a commencé, parce qu'à l'époque où j'ai commencé.
Ah, vous connaissez Maître René Binet?
Il fait oui. partie du reportage de Paul Arcand.
Oh my God.
C'est oui. ça.
Valeurs d'enfance.
Alors, on dialoguait régulièrement. Mmh. D'ailleurs, lui écrivait des articles sur Le Devoir, puis moi, souvent, j'en rajoutais ou je répondais ou oui. je rajoutais des commentaires, puis il appréciait beaucoup mes commentaires.
Oui.
Alors que pourtant, je ne venais pas de ce domaine-là, je ne venais pas du domaine des avocats. J'étais technicien électronique à la STM. Alors, et par obligation, je suis devenu plus ou moins psychologue parce oui. que là, j'ai plein de gens. Oui. Je peux vous dire, moi, comme je m'identifie très visiblement par mon auto, par mes t-shirts,
oui.
je peux vous dire qu'à plusieurs occasions, j'ai des jeunes qui sont venus s'adresser à moi en pleurant, en me disant « Monsieur, j'ai besoin de parler.
Oui.
On me laisse plus voir mes parents. C'est Noël, puis je rêverais de voir mes parents, mais on me l'interdit. » Alors là, je leur dis « Écoute, moi, je suis parent, puis je vois pas mes enfants, alors je vais te voir comme si c'était mon enfant. »
My God. Mais j'aimerais bien, M. Robert, vous êtes arrivé à ce stade-là, vous le dites même vous-même, mais vous êtes rendu presque... dans cette sphère de psychologue, informaticien aussi par la cause.
Et ça m'a même obligé à devenir politicien maintenant.
Politicien, voilà, service de référence dans les documentaires et tout. Avec tout ça, vous êtes rendu à cet âge-là, vous avez vos enfants qui ont 20 ans, et il n'y a personne qui a dit, on va faire une réflexion pour refaire le contact, et que vous pourrez avoir l'occasion de voir est-ce que cet espoir-là, est-ce qu'il n'y a personne qui vous a pu écouter, pour dire, écoutez, là, monsieur, on a coupé depuis une quinzaine d'années, est-ce que ce n'est pas le moment opportun aujourd'hui qu'on va remettre le contact?
Dans le système, on ne veut pas remettre le contact dans le système parce que l'enfant va s'être fait dire toute sa vie qu'on l'a abandonné, que ses parents ne valent rien, qu'ils ne veulent plus entendre parler de lui. Et de l'autre côté, on va dire aux parents que son enfant ne désire plus jamais le revoir.
Mais M. Robert, pour corriger le tir, est-ce que vous pensez une rencontre avec vos enfants, hein, parce qu'il y a des centaines et des milliers peut-être des enfants qui sont dans la même situation, mais si par exemple vous, pensez-vous que le contact, si on va reprendre le contact, pensez-vous que vos enfants, il y aura un traumatisme ou il y aura quoi que ce soit, à votre avis?
Tous les enfants qui sortent de là sont... hautement traumatisé parce oui. que j'en ai rencontré beaucoup de jeunes.
Alors c'est pour le bien des enfants de ne pas vous voir, de pas voir ses parents, c'est ça que vous êtes en train de me dire ou quoi?
C'est pas pour leur bien, c'est que j'ai connu une jeune mère suite à mon travail. Et la jeune mère, elle avait retrouvé son père.
Oui.
Mais elle dit, on m'avait tellement programmée à détester mon père, a dit, j'étais totalement incapable de parler correctement à mon père.
Oui, dit, ça peut traumatiser encore pire.
C'est que l'enfant, il est comme programmé malgré lui. Alors, oui. il n'arrive plus à s'exprimer, là. Dès qu'il tente de s'exprimer, ce qui sort, c'est de l'agressivité oui. qu'il ne contrôle plus.
Monsieur Henri, vous dites que si je savais, c'était préférable de ne jamais avoir des enfants.
Oui, si j'avais su aujourd'hui que mon enfant ne pouvait pas porter le nom de sa mère à cause que le père était un bâtard, Jamais.
Pas un bâtard. Pour le système.
Le système, je suis bâtard.
Oui, ils ont,
parce
oui.
que j'ai eu un enfant.
Baptisé un enfant
pas,
bâtard.
Un enfant, oui. dire, ma mère a eu un enfant hors mariage.
Oui.
Eux autres, dans les années 40, j'ai été déclaré. C'est l'Église, ça, qui a fait ça.
Je sais, oui.
C'est l'Église qui a trouvé ce nom-là.
Alors, et vous restez avec ça, comme quoi vous avez toujours ce statut-là, comme vous êtes un débile mental.
Débile mental, puis un bâtard.
Jusqu'à présent.
Oui.
Et ça n'a jamais gommé ou corrigé.
Ça se déteint sur nos petits-enfants.
On appelle ça un effet de halo négatif. C'est ça qu'ils font concernant la DPJ. C'est comme si... Écoutez, j'ai plusieurs personnes qui, au début, on leur dit... On les convainc, même des jeunes qui ne sont pas capables d'être mères, qui sont pas... Et puis le monde, il croit tout ça. Ben, je dis, voyons, laisse-toi pas. T'es capable. Ouais. C'est pas une bonne intervention de te laisser croire. Moi, je me souviens, mes cours en psychothérapie, mon professeur, je l'adore. Il disait, on amène les gens où on est rendu. Alors, comment qu'on peut faire croire aux gens qui ne sont pas capables d'aller plus loin que soi? On doit aider les autres. Pourquoi moi j'ai réussi et que les autres n'auraient pas ce droit-là? Oui.
Je comprends. Alors, si vous me permettez, Mme Chantal Minot et M. Robert, Jean-Robert, M. Henri, on va faire juste une pause de 2 minutes musicale et on va revenir avec la fin de l'émission.
Cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeur ouvrier, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est qu'on est chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, les dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Banal de parler de paix et de fraternité quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes aux prolétaires juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant, tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. 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 On lâche rien.
Alors voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. J'aimerais bien dire, vous avez entendu la chanson, et on va toujours dire qu'on cherche vraiment un autre monde. Donc, on n'a pas le choix. Il faut s'accrocher toujours. Il y a l'espoir, madame
Oui,
Chantal.
Oui, il y a beaucoup d'espoir, puisqu'on est plusieurs.
Nous sommes dans la semaine de prévention de suicide, et vous avez quelque chose à nous lire aujourd'hui.
Oui, j'aimerais lire un texte.
Rapidement, parce qu'on
oui,
a vraiment quelques secondes.
C'est juste que je donnerai la parole aux adolescents que vous voyez dans la rue, souvent itinérants, que souvent on n'entend pas. J'aimerais ça lire ce texte-là qui a été écrit par un adolescent. C'est un collègue psychoéducateur qui me l'a donné.
Rapidement, madame.
Propos d'un décrocheur. Cher Log, Peut et Tard. Je me demande pourquoi vous m'appelez un décrocheur. Je n'ai jamais accroché. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais accroché peut décrocher? J'avais besoin d'un peu plus de temps. Vous m'en avez enlevé avec vos rencontres de toutes sortes. J'avais besoin d'un peu d'affection, un peu plus d'affection. Vous m'avez disséqué comme un vulgaire morceau de steak pour voir ce qui n'allait pas. J'avais besoin d'un peu plus d'amour. Vous m'avez laissé entendre que l'amour nuisait à mes études. J'avais besoin d'un peu plus de support familial. Vous avez éloigné mes géniteurs qui vous ont informé de mes mauvaises performances. J'avais besoin d'explications supplémentaires pour comprendre. Vous avez traduit mon besoin en revendication syndicale. J'avais besoin d'être protégée des indiscrétions. Vous m'avez exposée à tous les regards. J'avais besoin d'être écoutée. Vous m'avez démontré que je faisais fausse route. J'avais besoin qu'on me soutienne d'une certaine façon. Vous m'avez soutenue à votre façon. J'avais besoin d'un coup de pouce. Vous m'avez donné un coup de pied. J'avais besoin d'être encouragée dans mes hésitantes démarches. Vous avez voulu aller trop vite et j'ai perdu pied. J'avais besoin d'humour devant mes succès mitigés. Vous avez affiché votre sérieux des mauvais jours. Voilà, je vous ai dit un peu ce qui n'allait pas pour moi. Un décrocheur. PS, ne m'en voulez pas d'avoir dit tout ça. Tout est dans la manière de le dire et ça, c'est une chose que je n'ai pas.
Merci beaucoup, Mme Chantal. Vraiment, bravo. Donc, on a compris qu'il ne faut pas perdre du pied, c'est ça? Il ne faut pas perdre pied. On arrive vraiment à la fin de cette émission-là. Monsieur Robert, j'aimerais bien vous envoyer un message d'espoir à tout le monde, là, à ceux qui pensent que le suicide, c'est une porte de secours. Il faut dire non. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de se rassembler. Et on a besoin aussi de reconstruire un autre monde. Pour que la vérité devienne un maître.
Moi, j'ai deux directives que je donne aux victimes.
Oui.
Se faire plaisir le plus souvent possible et croire en soi et uniquement en soi.
Oui. Madame Jantan.
Écoutez, croire à l'amour. Je pense que dans chaque personne, même dans les intervenants que vous croyez des fois indifférents, c'est un mécanisme de défense. Je crois que si on a un regard d'amour envers tous, on va aller toucher à quelque part. Puis je pense qu'on l'a tous, puis on est une bonne société.
Vous êtes d'accord que de dire aujourd'hui que dans chaque personne, il y a une valeur, une
oui.
valeur unique.
Oui.
Alors, il faut aller
la chercher.
La chercher, cette valeur-là.
Même ceux qui agissent de façon inacceptable. Écoutez, c'est comme j'entendais une avocate qui se plaignait, qui avait laissé un enfant qui avait été abusé par un autre enfant chez son père, puis qu'il fallait que les parents reviennent avec la garde partagée. Je pense qu'elle n'est pas à jour. La garde partagée...
On aura l'occasion, Mme Chantal, de revenir avec vous, c'est sûr et certain, avec notre émission, dans les semaines qui viennent, peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, mes chères auditrices, chers auditeurs, malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Donc j'aimerais bien remercier Mme Chantal Minou et M. Jean Robert d'avoir accepté notre invitation et d'avoir se déplacé sur ce plateau-là. J'aimerais remercier aussi notre technicien de son, Louis-Joseph Alandi, pour tout le travail.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins de 8 à 9 où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com.
Salsa, reggae, camba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamuffin, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.